Chapitre 11. Il y avait déjà 5 ans que Simone, qui s'était mariée sous le régime de la séparation de biens, avait loué à son nom le chalet de la rue de Gommerie, où, par parenthèse, elle avait eu 20 000 francs de frais de remise en état. Pendant longtemps, elle n'avait fréquenté personne. Elle connaissait pourtant du monde à Fombonne, où elle avait villégiaturé dans sa jeunesse et où la famille d'Abricourt avait de nombreuses attaches. Elle était orgueilleuse. Quand on avait été la femme du capitaine Emmanuel de Kersauçon, le monde oublié qui lui avait reproché ce mariage également, il fallait avoir un grain de folie pour convoler avec un monsieur Charles Digoin. Elle savait que le monde avait raison, mais tant qu'aucun racontard n'arrivait à elle, cela lui était égal. Elle s'était créée des occupations. La direction de sa maison l'amusait. Elle avait pour l'homme, qui était le prétexte d'une vie qu'elle avait désirée bien avant de se remarier, toutes les attentions d'une femme profondément attachée. Il y avait 2 ans, elle avait subitement craint que son mari ne se lassât de cette existence. Il ne s'en plaignait pas. Il n'était pas de ces hommes ayant besoin d'action et de distraction. Il se levait assez tard, vers 9 heures, s'habillait lentement, puis descendait en ville. Il aimait, pour cette promenade, à prendre la rue Saint-Corneille, car chaque fois, à la vue des maisons qui se rejoignaient au loin dans la brume du matin, à l'endroit justement où l'animation était la plus grande, il éprouvait la sensation de pénétrer dans une ville inconnue. L'après-midi, il attendait le goûter, auquel il n'avait jamais pu cependant s'habituer. Puis, à 7 heures, il partait pour la gare chercher les journaux du soir, en passant par les avenues cette fois, ce qui lui valait le plaisir de rencontrer de jolies et élégantes jeunes femmes se rendant au cercle en sortant du golf. Il leur souriait parfois. S'il n'y avait pas eu une si bonne entente entre Simone et lui, si tous deux ne s'étaient pas complétés si parfaitement, n'eût-il pas fréquenté les mêmes lieux que ces charmantes personnes ? Simone ne connaissait-elle pas des parents, des amis, de certaines de ces jeunes femmes ? Elle n'avait aucune relation avec ces dernières, à cause de son mari, justement. Mais elle eût pu en avoir. Cela ne dépendait que d'elle. C'était l'essentiel. Ainsi, l'isolement dans lequel se trouvait Digoin n'avait rien de comparable avec celui dans lequel il s'était trouvé toute sa vie. La fierté qu'il avait des possibilités mondaines de sa femme n'avait pas échappé à celle-ci. Au début, elle n'y avait pas prêté attention. Mais depuis quelques mois, son attachement ayant sans doute grandi avec le temps, elle cherchait à incarner le personnage plein de ressources qu'elle se sentait aux yeux de Charles. Chaque fois qu'elle en eut l'occasion, elle présenta son mari aux gens qu'elle avait connus dans sa jeunesse, sans se soucier, comme avant, s'il plairait. Mais ces sortes d'entrevues n'eurent jamais de suite et qu'elle craignait que Charles n'en conçût de l'amertume, elle prit enfin la résolution de ne plus fuir les avances que lui faisait depuis longtemps un monde moins brillant que le sien, mais respectable, le monde officiel de la ville. Il n'ignorait pas que Madame Charles Digoin était née à Bricourt. Il avait suffisamment d'apparence pour que Charles, qui ne distinguait pas la nuance de mépris que la société avait pour ce monde, pût se croire aussi honoré d'en faire partie qu'il ne l'eût été de fréquenter l'autre. C'est pourquoi, de temps en temps, sans même avertir son mari, Simone invitait le sous-préfet, le contrôleur principal des finances, le professeur de philosophie du collège, le procureur de la République, mais pas M. de Coucy, simple juge suppléant pourtant, M. Colonna, conservateur du château, quelques Parisiens possédant une villa dans la région et faisant sans cesse allusion à la morgue de ceux qu'ils appelaient les hobereaux de province, des officiers supérieurs d'origine modeste, comme le colonel Machecos, très au courant des qualités de charbon qu'on devait utiliser dans les appareils de chauffage. Il était tout à fait à sa place dans ces soirées qui avaient un air de réunion d'état-major. Il y planait le sentiment qu'ainsi réunis, tous formaient une puissance. La désillusion ne venait qu'ensuite, comme quand, au lendemain d'un meeting, après avoir voté avec tout le monde une adresse réclamant la libération d'un prisonnier, on apprend qu'il n'a pas été relâché. Digoin s'effaçait, quoique plein de fierté, que tant d'importantes conversations puissent avoir lieu chez lui. chacun de ces personnages laissait entendre, en révélant le nom quand il s'agissait d'un individu qu'on n'aurait jamais l'occasion d'approcher, que, dans un certain cas, il était intervenu en faveur de quelqu'un, un certain cas bien déterminé. « Dépêchons-nous de dîner, » dit Charles. « Après, nous arrangerons cela. » Ils rejoignirent Maurice. Il avait ôté son pardessus. Il se frottait les mains, comme font les messieurs qu'on rencontre dans les restaurants lorsqu'ils reparaissent après une courte absence. Le premier coup d'œil de Simone sur le jeune homme fut rapide, sévère. Puis elle lui témoigna une amabilité si peu dans ses habitudes que Charles en fut surpris. Elle n'avait pas si souvent l'occasion d'user de sa séduction pour servir son mari. Maurice, lui, était très mal à l'aise. En général, quand on se trouve en présence d'une personne qu'on n'a jamais vue, mais à laquelle on est attaché par la parenté ou dont on a beaucoup entendu parler, on éprouve un sentiment singulier. Ce n'est pas la crainte de donner une idée insuffisamment avantageuse de soi, c'est plutôt qu'ayant conscience des défauts de son groupe, on tienne, en prenant contact avec un membre de notre groupe, à représenter dignement celui dont on fait partie. Or, rien de tel ne se produisit chez Maurice. Il était à cet âge, il avait 27 ans, où le principal défaut est la colère, mais non encore les petits calculs de cette espèce. Peu après, on se rendit à la salle à manger. Simone avait gardé des années passées dans sa famille une sorte de complaisance pour les lieux où s'opèrent les fonctions du corps. Alors que le grand et le petit salon, le hall formant living room, les dépendances ne retenaient jamais son attention, aucune amélioration n'était superflue pour la salle à manger et les chambres à coucher. Ces pièces étaient les mieux exposées, les plus douillettement aménagées. Les repas se déroulaient avec solennité. Digoin en était flatté. Ce soir-là, pourtant, il était trop inquiet pour éprouver son habituelle satisfaction. Il s'attendait à ce que, d'un moment à l'autre, Maurice donna la raison de sa venue à Fontbonne, qu'il fit allusion à la difficulté de gagner sa vie, de trouver une situation, qu'il demandât une aide matérielle. Le jeune homme était visiblement bien trop intimidé pour dire, comme l'avait d'abord craint son père, « Tout ça c'est très bien, mais parlons maintenant de choses sérieuses. Je suis ton fils. » Non, il répéterait simplement ce que Juliette lui avait appris. Il réciterait une leçon. Ensuite, se produirait la scène désagréable. Simone interviendrait comme chaque fois qu'il s'agissait d'argent. « Mais ce garçon a parfaitement raison. C'est ton fils. Il est tout à fait naturel que nous fassions quelque chose pour lui. » Elle était généreuse, mais comme sa mère qui amassait des bibelots pour des cadeaux d'anniversaire, elle n'avait pas un sens très sûr de la valeur de ce qu'elle donnait. Cela lui semblait toujours beaucoup. Que se passerait-il si Simone, après avoir paru vouloir s'occuper de Maurice comme d'un fils, se contentait de lui donner un conseil quelconque, celui de faire une carrière militaire, par exemple? Que se passerait-il quand Juliette l'apprendrait? Mais Charles Digoin se trompait. Son fils lui rendait une visite désintéressée. Après le dîner, Simone et Charles conduisirent Maurice dans une chambre à coucher où personne jusqu'alors n'avait passé la nuit. Un feu de bois y avait été allumé. « Excusez-nous de vous laisser déjà, » dit Simone avec une amabilité de circonstance et tout en repoussant les objets fragiles. « Mais nous attendons des amis. Si vous aviez besoin de quelque chose, vous n'auriez qu'à sonner. Il y a, je crois, dans un tiroir de cette commode, quelques livres. Est-ce que demain matin vous descendrez prendre votre petit déjeuner ou est-ce que vous aimez mieux qu'on vous l'apporte ?» Simone n'avait pas envisagé une seconde que le jeune homme pût passer la soirée avec elle et ses invités. Ce n'était pas que la présence d'un beau-fils dont tout le monde ignorait l'existence, l'eût gêné, ni que son mépris du qu'en dira-t-on eût manqué de sincérité, ni que ses sentiments pour Digoin fussent tels qu'elle souffrit de le voir en mauvaise posture vis-à-vis de gens qui ne montraient que trop que c'était à la femme qu'allait leur sympathie, mais tout simplement parce qu'il eût été désagréable de faire connaissance, en même temps que des étrangers, du fils de son mari.